des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous, Clotilde Seyo? Au téléphone, j'allais dire, non pas du tout, au micro, nous sommes en studio ici, au studio de Canal M, la radio de Vues et Voix. C'est l'émission des livres plein les oreilles qui commence et je vous rappelle que tous les livres dont il est question à cette émission sont des livres qui sont disponibles en braille ou encore en version audio adaptée. Les livres du SQLA, vous les, ici au Québec, on peut les avoir via la BANQ, et donc ce sont les livres qui sont enregistrés notamment ici chez Vues et Voix. Quant aux autres dans le reste du Canada, si vous nous écoutez d'est en ouest, sachez que grâce à CAEB, eh bien maintenant on peut trouver les livres enregistrés à l'INCA dans toutes les bibliothèques du Canada en version audio adaptée. Voilà. Alors, une fois ce petit préambule dit, on va passer à la table des matières. Et la table des matières, alors aujourd'hui, je reçois au téléphone Nicole Trudeau. Je reçois en studio, elle est déjà arrivée, Juliana Léveillé-Trudel. C'est un nom que vous connaissez peut-être pas encore très bien, mais que vous allez connaître assurément dans très peu de temps. Également, en seconde partie, je m'entretiens avec François Côté, qui est un bénévole, lecteur depuis des années et des années ici, chez Vues et Voix. Et je vais m'entretenir à Québec avec Isabelle Forest autour du Festival Québec en toutes lettres. Mais on commence d'abord avec Madame Trudeau. Et Nicole, avec vous, j'aurais dû peut-être aujourd'hui rebaptiser l'émission des livres sur le bout des doigts.
Oui, bonjour.
Bonjour Nicole. Parce que vous, c'est en braille hein, que vous lisez.
Ben, je lis principalement en braille. J'écoute aussi, mais disons que j'ai une affinité et une préférence pour lire dans le texte lui-même en braille.
Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Ben, peut-être d'une part parce que j'ai l'habitude et d'autre part parce que personnellement, je me sens dans une communion plus grande quand je touche le texte, quand je peux moi-même donner le rythme à mon texte.
Oui, je peux comprendre ça, tout à fait.
Et bon, c'est principalement pour cette raison-là. Je me suis toujours posé la question, je me dis, non, il me semble que le texte m'appartient davantage quand je peux le toucher, le lire moi-même, puis bon, évidemment, il y a l'orthographe. Et
oui, oui. Hein.
Mais je crois que c'est l'intimité et c'est mon souffle, hein, mon rythme.
Mais je trouve ça très intéressant. Je suis très contente de vous avoir posé la question. Nicole Trudeau, vous nous parlez d'un livre d'Andrei Makine. Aujourd'hui, je vous laisse le soin de nous le présenter.
D'abord, c'est le titre, c'est « Au temps du fleuve Amour ».
Oui.
C'est pas le premier livre que je lis de Makine.
Non.
Ce livre, la façon, au fond, qui m'intéresse le plus de communiquer, c'est l'impact, le choc émotionnel que la qualité de la langue et la qualité de l'écriture m'a suscité chez moi. Oui, l'histoire, bien sûr, mais c'est peut-être pas sur cet aspect-là que
vous nous amenez.
J'aimerais insister davantage, c'est vraiment sur la beauté de la langue. Je me dis toujours, quand je lis, je me dis, ah! Oh, comment un homme qui, le français n'est pas sa première langue, hein, oui. Parce que Makine est né en Sibérie. Il a appris le français, il l'a étudié très, très jeune. Il a même écrit sa thèse de doctorat sur le roman français contemporain.
Oui.
Mais il a quand même vécu en Russie jusqu'à 30 ans. Maintenant, à partir de l'âge de 30 ans, il est en France.
Oui.
Et je me dis, mais comment on peut écrire avec une telle souplesse, un tel raffinement, une telle image, une langue qui n'est pas sa langue première. Ça, pour moi, là, c'est comme une admiration. Je suis portée à dire, pour moi, Makine, c'est comme un peintre des mots.
Oh, très joli.
C'est comme un magicien. Il a cette capacité de susciter, pour moi, des images et de faire surgir des émotions. Alors, j'avais pensé, peut-être principalement, peut-être vous proposer quelques images, en fait, telles qu'il les a écrites.
Fantastique, bon. Nicole, fantastique.
Bon, peut-être l'histoire quand même, là, ces trois jeunes adolescents qui... C'est sûr qu'André Makin, sa langue est magnifique, mais c'est sûr que c'est aussi un auteur avec beaucoup de substance, beaucoup de profondeur.
Mm-hmm. Oui.
Il parle de l'État, bon, de l'Union soviétique. Mm-hmm. Il y a des côtés durs, hein, assez rudes dans son écriture. Mais moi, ce qui m'a vraiment suscité là, une grande émotion, c'est la qualité de sa langue, surtout.
Alors, nous sommes quand même, puisque vous l'avez dit, on est obligé quand même d'évoquer, entre autres, cette froide et blanche Sibérie natale pour Makin. Hein?
Tout à fait.
Non loin du fleuve Amour, comme le dit le titre.
Oui, alors peut-être je peux vous proposer, si vous voulez bien, un premier extrait, justement, qui
décrit
un peu l'ambiance hivernale. Et puis, peut-être aussi, là, j'ai relevé aussi un très beau passage sur le fleuve Amour. Mais dans son livre, le fleuve Amour, bien sûr, c'est un des plus grands fleuves de Sibérie. Mm-hmm. Mais pour lui, il y a aussi une charge symbolique, l'amour, la découverte de l'amour pour les adolescents, etc.
Oui, c'est ça.
Et la fascination de l'Occident, etc. Alors, si vous voulez, je peux lire un premier extrait, puis si c'est trop long, vous m'arrêtez.
D'accord, Nicole. Si j'ose.
Dans la forêt, il faisait encore nuit. La neige était tantôt dorée par la lune, tantôt intensément bleue. Chaque jeune sapin rappelait une bête aux aguets. Chaque ombre était vivante et nous observait. Nous parlions peu, n'osant pas rompre le silence solennel de ce royaume endormi. De temps à autre, une branche de sapin se libérait d'un grand chapeau blanc de neige. Nous entendions son frôlement assourdi, puis le bruit étouffé de sa chute. Et les cristaux voltigeaient encore longtemps sous cette branche réveillée et s'érisaient en paillettes vertes, bleues, mauves. Et tout se figeait de nouveau dans la somnolence argentée de la lune. Parfois, nous percevions ce léger frôlement, mais toutes les branches restaient immobiles. Nous tendions l'oreille des loups et, au-dessus de la clairière, nous voyions passer l'ombre d'un hibou. Le silence était si pur que nous croyions sentir la densité et la souplesse de l'air glacé qu'incisaient les grandes ailes grises de l'oiseau. Alors, tu sais, pour moi, là, il y a, bon, il y a la vue, il y a aussi l'audition, hein, l'ouïe. C'est ça, je me dis, il sollicite
les images.
Tous les sens, un peu. Tu sais, quand on parle ici, le silence était si pur que nous croyons sentir la densité et la souplesse de l'air glacé.
Pour
moi, là, ça, c'est des images que je trouve absolument admirables.
Et vous savez, ce qui me fascine aujourd'hui, et je le dis souvent dans cette émission-là, c'est qu'il y a parfois des espèces de hasards, de coïncidences, qui font que tout d'un coup, deux univers se rencontrent sans que, évidemment, je n'ai fait quoi que ce soit pour que ça arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'en face de moi, j'ai une auteure que vous allez découvrir quand vous écouterez cette émission-là, dans deux semaines, hein, quand elle sera diffusée, qui, elle, nous amène au Nunavik. Et je vous jure que dans certaines pages, lorsqu'elle décrit la toundra, que ce soit en été comme en hiver, évidemment, ce n'est pas la même écriture, mais Madame l'éveillé Trudel qui est là, si vous aimez les beaux mots, ne ratez pas ce livre-là, Nicole Trudeau, parce que c'est vraiment une magnifique écriture. Je regrette parce que là, elle est là. Alors, du coup, elle est toute rouge, pauvre chouette. Mais si elle n'avait pas été là, j'aurais dit exactement la même chose. Et il y a une parenté entre ces deux univers, évidemment, entre cette Sibérie lointaine et si glaciale et le Grand Nord. Hein.
Oui, cette capacité de dire et au fond de peindre, pour moi, c'est beau. Ici, c'est comme si c'était les couleurs pour peindre.
Hein? Oui.
C'est-à-dire, en lisant ça, je vois le paysage, je le sens, je l'entends. Et quand je lis Makin, et peut-être qu'avec Madame, ce sera la même chose, J'ai le sentiment de toujours être en lumière. Hein.
C'est je comprends.
La belle lumière d'hiver, le beau soleil d'hiver.
Absolument.
Alors, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, ça me fera plaisir de découvrir l'ouvrage.
Oui. Alors, ça s'appelle, je peux déjà vous le dire, ça s'appelle Nirlit. Nous allons en parler ensemble dans quelques instants. Ça s'écrit N-I-R-L-I. IT, ça veut dire les oies, hein, si je ne m'abuse. Et voilà. Je suis convaincue que vous allez apprécier beaucoup la littérature. Pardon?
L'œuvre est déjà enregistrée?
Oui, l'œuvre est déjà enregistrée. Alors, elle est sortie, elle est parue dans les nouveautés, là, il y a un mois à peu près. Alors, oui, elle est tout à fait disponible.
Je vais demander qu'on le fasse en braille.
Oui, ben oui, absolument. Et merci. Merci pour cette expérience parce que je depuis longtemps, j'étais un petit peu gênée finalement lorsqu'on ne parle que de livres audio. Les gens qui écoutent des livres, ils peuvent pas nous lire d'extraits. Et vous, en braille, et ça a été une expérience de radio dont je me souviendrai longtemps, Nicole, et qu'il va falloir que nous renouvelions.
Ah ben, ça me fera plaisir.
D'accord. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. On va quand même rappeler le titre de ce livre, « Au temps du fleuve Amour, comme l'amour », d'Andrei Makine, M-A-K-I-N-E. Merci, Nicole.
Je vous en prie.
Bonjour, bonjour Juliane, Juliane Léveillé Trudel.
Bonjour.
Je ne sais pas ce que vous essayez de me dire, mais il faut me le dire.
Je disais que j'étais impressionnée à quel point Mme Trudeau lisait vite en braille. Je m'imaginais que ça serait plus long, mais elle lisait aussi vite que...
Et là, je peux vous dire qu'elle devait ralentir, justement, comme elle nous l'a expliqué, pour donner son rythme aux mots, parce qu'ils peuvent aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ça.
Mais je suis très impressionnée.
Moi aussi, et vraiment, encore une fois, quel beau moment de radio. Ça se poursuit avec vous, Juliana Léveillé Trudel. Il faut quand même que je vous raconte que ce livre-là est arrivé dans mes mains parce que mon amie Anne-Laure Janson, qui est notre recherchiste à toutes et à tous ici, et alléluia, nous l'avons avec nous. Moi, pour moi, c'est une nouveauté. C'est elle qui m'a dit, as-tu entendu parler de ce livre, Nirlit, N-I-R-L-I-I-T. Et de Juliana Léveillé Trudel, qui l'a écrit, je dis non, pas du tout. Elle me dit, écoute, c'est tellement beau, c'est tellement fantastique, il faut que tu le lises. Alors, on l'a fait venir. Et encore une fois, hasard ou coïncidence, il y a une semaine, quand nous avons reçu Tristan Malavoie, je lui avais demandé d'amener avec lui deux ou trois livres qu'il aimait particulièrement. Et lequel, pensez-vous, qu'il nous a amené? Nirlit. Non, mais je vous dis les choses parfois, et c'est absolument, alors indépendant totalement de notre bonne volonté, on laisse faire le hasard. Alors Nirlit, Juliana Léveillé Trudel, vous avez été amenée à travailler pendant quelques années, c'était l'été, au Nunavik.
Oui.
Voilà. Et donc à faire l'oie, parce qu'il faut dire que Nirlit, hein, ça veut dire les oies, d'où le
oui,
titre.
C'est ça.
Et à vous déplacer du nord au sud.
Oui, c'est ça. Au fond, j'ai mis en place en 2011 un camp de jour, donc un camp de vacances pour les enfants l'été à Saluit. J'avais une amie qui était professeure d'éducation physique dans la communauté, puis je rêvais beaucoup d'aller voir le nord, tout ça, mais j'avais pas vraiment les moyens. Ça coûte assez cher de se rendre jusque-là.
Vous en rêviez?
Oui, oui, ça m'attirait depuis que j'étais toute petite. Puis avec elle, on s'est mis à chercher qu'est-ce que je savais faire d'utile, qui pourrait être utile dans le Grand Nord. Puis je sais pas faire grand-chose de mes mains, mais j'avais beaucoup d'expérience avec les enfants, tout ça, donc on a eu l'idée d'un peu d'inventer ce camp de vacances parce qu'il n'y avait rien. L'été, quand l'école se terminait, les enfants n'avaient pas nécessairement beaucoup à faire durant 2 mois.
Donc, sans compter qu'il fait jour tout le temps.
Il fait jour, oui, tout le temps, l'été. Mmh. Donc, on a eu cette idée-là. Donc, on a monté le projet ensemble. Donc, j'ai passé 4 étés complets, donc 3 complets à Saluit. Un où je me promenais entre quelques villages. J'avais fondé un autre camp de jour dans un autre village et je travaillais dans un troisième aussi. Et ensuite, j'ai été engagée dans un organisme en prévention du décrochage scolaire qui s'appelle Fusion Jeunesse, comme responsable des projets au Nunavik. Donc, je me suis retrouvée après ça à voyager dans 8 communautés du Nunavik, dont Saluit, mon chouchou, évidemment. Mais oui, j'ai passé donc beaucoup d'été à Saluit.
Et alors, cette proximité que vous avez connue a donné lieu à ce premier roman, parce qu'il s'agit d'un premier roman, et on espère bien que ce ne sera pas le dernier, où là, vous nous racontez l'histoire d'Eva, Eva qui vient... Est-ce que je dis la narratrice ou vous?
Vous pouvez dire la narratrice.
On va dire la narratrice. Eva qui vient accueillir, qui est donc une grande amie de la narratrice, qui vient l'accueillir à chaque fois. Et un jour, Eva n'est plus là, n'est pas là. Et elle se pose la question, est-ce que tu fais partie de ces femmes qui ont disparu comme toutes les autres, assassinées? En tout cas, on imagine toutes les horreurs qui ont pu lui arriver. Mais si je parle d'Eva, c'est parce qu'en fait, je voudrais plus parler de la vie. Parce que finalement... La grande héroïne, je veux dire, c'est la vie au Nunavik, c'est celle que vous nous racontez. Et les mots qui me sont venus en lisant, parfois j'étais touchée aux larmes, très honnêtement. Et je me suis dit, hein, c'est un livre à l'image de ce qu'il nous décrit d'une beauté désespérante.
Oui, c'est un peu ce que j'essayais de traduire. Quand la toute première fois que j'ai mis les pieds au Nunavik, je me suis dit que c'était un endroit qui était hautement littéraire ou cinématographique parce que c'est tellement grandiose et c'est à la fois sublime et aussi déchirant. Oh. Et j'étais aussi impressionnée par la vie des gens, parce que les épreuves qu'ils traversent sont des choses que nous, pour la plupart, on vivra même pas le quart de tout ça dans une vie.
Ah oui, non, c'est ça.
Et donc aussi la force, la résilience des gens de passer au travers tout ça et d'être encore là. Donc, dès mes premiers pas là-bas, je me disais, j'aimerais ça écrire quelque chose, une histoire qui se passe ici, mais je ne savais pas trop quoi. Mais je me sentais un peu comme dans une pièce de Wajdi Mouawad ou de Shakespeare. C'était vraiment, plus grand que nature. C'est un peu ce que j'essayais de décrire, à la fois la sublime beauté, mais aussi la dureté.
Exactement. Et pour appuyer vos propos, je suis dans votre livre, en page 20, où vous dites « Vous êtes là avec vos vies de tragédie grecque, vous feriez baver Shakespeare avec vos douleurs lancinantes et votre désespoir, et je ne sais pas comment vous faites pour endurer ça, moi qui en arrache déjà avec ma petite misère ordinaire. »
Exactement.
Et juste en dessous, il y a, à mon avis, ce qui est un fardeau lourd à porter, vous me direz si c'est vrai ou pas, « Nous sommes les nouveaux missionnaires blancs. » Nous prêchons la bonne hygiène de vie, ne fumez pas, ne buvez pas, ne prenez pas de drogue, ne mangez pas de fast-food, consommez plus de fruits et de légumes, etc., etc. Vous devez tellement nous trouver fatigants. Est-ce qu'il nous trouve fatigants?
Non, je dirais que c'est plus complexe que ça,
ouais, c'est ça.
Mais c'est certain que ce que je décris aussi un peu dans le livre, c'est les conséquences du colonialisme, au fond, qui est arrivé plus tard au Nunavik parce que la région était tellement isolée, difficile d'accès, froide. Donc, si on compare, c'est un peu la même histoire qui s'est répétée avec toutes les communautés autochtones au Canada et partout dans le monde, mais au Nunavik, c'est très récent. C'est peut-être pour ça que c'est aussi brutal. Ça date des années 50, à peu près 1950. On parle de gens, comme je le dis aussi dans le roman, des personnes âgées dans le village qui sont nées dans des igloos, qui ont connu vraiment la vie nomade, la chasse, la pêche, et dont les arrière-petits-enfants jouent sur des iPhones. Donc, c'est un peu toute la
dualité entre...
Oui, le choc, parce que la civilisation occidentale, avec toute sa modernité, est arrivée tellement vite et de façon brutale et imposée. Donc, je dirais que c'est plus complexe que nous trouver fatigants, on a imposé notre mode de vie et aussi je pense que ce qu'on a fait avec les communautés autochtones beaucoup, c'est de les déresponsabiliser, les infantiliser. Alors, ça fait des gens qui n'ont plus beaucoup confiance en eux et qui pensent qu'ils n'y arriveraient pas sans nous, ce qui est complètement faux, mais sauf que c'est ce qu'on a fait, on les a déresponsabilisés.
Et puis, il y a une page à un moment donné où vous dites, par contre, je ne peux pas constamment vous défendre. Hein? Est-ce que... parce qu'il y a cette dualité-là aussi. Je veux dire, vous les aimez, mais il y a des fois où vous dites, regarde, là, je ne peux pas te défendre tout le temps, je vais la retrouver, mais parlez-nous de ça un petit peu.
Je parle, c'est parce qu'on a... il y a une fois où je cite Félix Leclerc en disant « La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire », donc c'est exactement ce qui a été fait, donc... et c'est que je pense qu'une des raisons qui fait parfois les tensions entre les non-autochtones et les autochtones, c'est ce sentiment d'injustice de dire qu'ils ont, qu'ils reçoivent tout ça, qu'ils reçoivent de l'argent. Donc moi, je parle de la mine Raglan, qui ça, c'est pas le gouvernement, mais c'est une mine qui est installée là-bas, qui redonne des redevances. Donc l'argent qui arrive dans les poches des gens sans qu'ils aient nécessairement fait quelque chose pour, à part que d'accueillir la mine sur le territoire. Mais c'est que ça devient... c'est que c'est un questionnement que j'avais. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire de tout donner gratuitement?
Oui, oui.
Et des fois, c'est ça. Ben, ce que, l'exemple que je donne, c'est des gens, par exemple, je donne une mère de famille monoparentale.
Est-ce que vous me permettez que je lise l'extrait? Nous sommes en page 86 et la narratrice dit à Eva, tu sais, Eva, j'essaie toujours de vous défendre contre tout le monde, mais quand une mère seule travaille comme une folle à un salaire de misère pour arriver à payer son loyer, elle ne comprend pas pourquoi vous auriez le vôtre gratuitement, payé par ses impôts à elle. Et cette conversation finit toujours presque invariablement par qu'ils retournent donc dans leurs igloos s'ils ne sont pas contents.
Oui, donc fait vécu.
Oui, c'est ça.
C'est des conversations qui arrivent souvent. Donc, c'est juste pour illustrer un peu la complexité parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. Donc, est-ce que c'était la meilleure chose à faire de tout donner gratuitement? C'est très complexe. Puis aussi, c'est que je dis aussi à un autre moment donné, tout le monde a des drames démesurés pour expliquer leurs manquements, mais à un moment donné... Donc, la narratrice est fâchée, elle dit qu'elle ne peut pas être, jamais être fâchée après personne parce que tout le monde a toujours une excuse. Donc, c'est un peu tout ce sentiment qui nous habite parfois, qu'on se dit, mon Dieu, puis là aussi avec notre propre culpabilité en étant nous-mêmes, faisant partie nous-mêmes du peuple qui a été oppresseur. Surtout,
absolument.
Je pense, comme Québécois, on est habitué souvent de se voir comme les opprimés. De constater qu'on peut être nous aussi des oppressants, c'est pas une constatation facile à faire. Donc cette culpabilité là, même si c'est pas moi personnellement qui est allée.
Non, je comprends.
Donc tout ça se mélange et fait que c'est ça, des fois on sait plus trop où se mettre.
Je me suis passé une remarque en lisant le livre en page 97 et je me suis écrit, ça aurait pu être une fin. C'est pas la page 97, pardon, c'est la page 77. Je t'abandonnerai aussi, Eva, et un jour je laisserai ton corps pourrir au fond du fjord, parce que c'est ce que vous redoutez, hein, qu'il arriva avec cette Eva-là, sans jamais plus te chercher désespérément sous les flots. Je n'aurais pas semé d'enfants aux yeux bleus et bridés, je n'aurais pas brisé de cœur de guerrier, mais je vous abandonnerai tous. Vous allez les abandonner, là, vous n'y allez plus.
Mais j'espère y retourner.
Oui.
Donc, j'ai la chance pour la prochaine année de me consacrer à l'écriture. Donc, ce qui fait que je n'occupe plus le travail qui me faisait aller
là-bas. Oui.
Mais c'est un peu... Ben, en fait, c'est un peu ce qui arrive à la majorité des gens parce que c'est... peu importe qui ce soit, que ce soit des enseignants, des infirmières, des médecins qui travaillent là-bas, c'est quand même une vie qui use. Ça peut devenir lourd émotionnellement, tous ces drames d'un village. Et c'est aussi simplement pour des considérations terre-à-terre. Les gens... moi, je connais beaucoup de jeunes femmes professeurs qui adorent le Nord, qui aimeraient se rester, mais qui ont envie de rencontrer, d'avoir un amoureux. C'est pas...
Bien sûr.
Donc, on est isolé là-bas, au fond du village, ou des gens qui veulent une famille, c'est plus complexe, ou qui s'ennuient tout simplement de leur famille au sud. Donc, les gens, souvent, ne vont pas rester très longtemps, quelques années, et retourner. Donc, oui, ça ajoute au drame parce que ça ajoute aussi à la complexité des rapports parce que les gens ne veulent pas nécessairement s'attacher à un blanc qui vient du sud parce qu'ils se disent, bon, ben toi aussi, tu vas partir comme tous les autres. C'est difficile.
Et vous parliez de famille, les enfants, ils en arrachent là-bas. Oh, qu'ils en bavent, les gamins. Les enfants, ce sont eux qui peuplent mes journées et m'habitent encore longtemps après, le soir, la nuit, mes rêves remplis d'enfants et de poupées russes. Écrivez-vous, les enfants, bien sûr, qui sont les premières victimes de la violence qui elle-même découle beaucoup de la boisson, de l'alcool, tout ça. C'est fou, encore une fois, comme ce livre est rempli de paradoxes entre la beauté et la laideur. Et je me demandais, à un moment donné, il y a une page sur Montréal que je vais retrouver aussi. Je me suis dit, est-ce que le fait d'aller vivre là-bas pendant quelques temps, d'y retourner, etc., lorsque vous reveniez à Montréal, est-ce que vous regardiez Montréal de façon différente?
Mais c'est un peu... je pense que quiconque passe du temps dans un endroit comme le Nunavik est toujours un peu en choc ou en décalage quand il revient parce que c'est tellement énorme ici, il y a tellement de monde, il y a tellement de choix, il y a tellement de bruit, il y a tellement
c'est
de
ça,
lumière. Moi, je grandis à la campagne dans un petit village dans les cantons de l'Est. Donc, je suis arrivée ici seulement pour l'université. Et j'avais moi-même ce décalage-là en arrivant de ma campagne. Donc, en arrivant du Nord, c'est aussi... Moi, un exemple que je donne souvent, c'est l'épicerie. Quand on va à l'épicerie, on est comme, mon Dieu, il y a comme 15, ben oui. 20 sortes de céréales.
Oh là! Mettez-en.
Oui. Donc oui, c'est un peu étourdissant. Ouais, ouais. C'est bruyant. Ça peut sembler un peu impersonnel aussi. Mm-hmm.
Ben là, vous écrivez justement sur Montréal, en page 97, « Les gens se demandent pourquoi vous partez de chez vous, Eva, pour atterrir sur l'impitoyable ciment d'une ville, Montréal, où vous ne connaissez personne. Mais c'est tout simple, au fond. C'est pour ne connaître personne, justement. Parce que juste avant, vous disiez qu'ils ne sont que 500 ou 600, mais ils se connaissent tous, quoi.
Oui,
c'est ça.
C'est la difficulté aussi. Tout le monde est lié. Ben 500, 600. Il y a des villages plus gros. Salouette, par exemple, c'est 1300 habitants, mais ça reste quand même très petit. C'est des villages qui sont isolés. Il n'y a pas de route. C'est accessible uniquement par avion. Et tout le monde se connaît. Tout le monde soit a des liens de parenté. Donc, tout le monde... Et c'est très, donc, tu ne peux pas être anonyme. Et souvent, ce qui arrive, c'est que s'il y a une agression qui a été commise, voilà. Par exemple, une femme violée
n'importe où,
c'est qu'elle va continuer à croiser son agresseur tous les jours. Donc, c'est ça qui fait que c'est très difficile d'essayer de s'en sortir quand t'as constamment, on te remet constamment dans le visage la personne qui a causé ton problème.
Alors, vous l'écrivez comme suit. Dans un village de 400 habitants, c'est difficile de ne pas voir quelqu'un. Toujours par rapport à Montréal ou à toute autre grande ville d'ailleurs. Quand ce quelqu'un vous a violé ou a tué un membre de votre famille, le métro de Montréal peut sembler bien accueillant. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire à ça. Non, mais... Oui, François, voulez-vous... Non,
j'allais dire, il n'y a plus rien à dire.
Non, c'est ça.
Au début de ma carrière, j'ai travaillé dans le Nord, j'ai travaillé à Sept-Îles, jusqu'à Blanc-Sablon. Il y avait beaucoup de populations autochtones. Et ce que vous racontez, Juliana... Ça fait quoi? Ça fait 40 ans de ça. Ça n'a pas changé du tout.
Ah oui.
Les mêmes problématiques. J'étais dans le domaine juridique et puis ça n'a pas changé.
Ah oui.
Et ça m'a l'air... Les extraits que j'ai entendus...
Vous donnent envie,
disent,
hein?
Me disent que c'est très bien écrit.
Oh, oui, c'est absolument
ça
magnifique.
Ça coule de source.
Ah, c'est de toute beauté. J'aurais pu vous en lire tellement et tellement d'autres encore. Oh, tiens, ça... C'est comme en Afrique, c'est bizarre, comme deux coins du monde si éloignés l'un de l'autre, peuvent-ils se ressembler autant? Mais c'est pas bizarre, tout le monde est pareil au fond, sauf les Occidentaux. Mais Indian time, African time, Mexican time, était bon, hein? Mais je trouve ça, je vous dis, j'en avais souligné des moments. Je vous rappelle le titre de ce livre, Nirlit, N-I-R-L-I-I-T, un nom qui veut dire les gens maigres, hein? C'est bien ça?
Salouit veut Salouit. Dire les gens maigres et Nirlit, c'est les oies.
D'accord. Oui. Et puis, c'est écrit par Juliana Léveillé-Trudel. J'aurais eu envie qu'on décrive et qu'on dise pourquoi ça s'appelait les gens maigres. Mais tant pis. Regardez, lisez le livre, comme ça, vous le découvrirez. Merci
On
beaucoup.
On l'explique dedans pourquoi ça s'appelle les gens maigres.
Voilà, Juliana Léveillé-Trudel. Retenez ce nom. Au revoir, Juliana.
Merci beaucoup.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Une seconde partie qui s'ouvre à Québec. Tiens, j'avais envie de parler avec Madame Isabelle Forest des grands moments du Festival Québec, des grands moments du Festival Québec en toutes lettres, qui s'ouvre ce soir. Si on dit ce soir, c'est parce que l'émission a été préenregistrée, mais on sait qu'elle est diffusée un 29 septembre. Bonjour Isabelle Forest, pardon d'avoir écorché votre nom.
Non, il n'y a pas de souci. Bonjour,
vous allez bien?
Ça va très bien, vous aussi?
Oui, ça va bien aussi, ça va très très bien. Alors, tant Québec mieux. En toutes lettres, vous savez que vous êtes à l'émission des livres pleins les oreilles et qu'il va y avoir beaucoup d'événements d'ailleurs, hein, de lecture, je pense, hein, de livres à cette...
Ben, en fait,
ce festival.
Des événements de lecture à haute voix, oui, mais des spectacles aussi. Si. En fait, le festival, en fait, une grande partie de la programmation du festival est constituée d'événements où on entend finalement, oui, la littérature. On peut la voir, mais on peut l'entendre.
C'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on en parle.
Oui.
Voilà, ça me semblait évident.
Donc, c'est l'occasion pour le public de vivre en salle ou ailleurs, dans des endroits parfois même inusités, comme dans un cimetière, hein, de vivre la littérature autrement.
Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu tout ça. C'est quelques moments marquants de la programmation, comme, allons-y avec ça, cette soirée au cimetière, là.
Oui, la soirée au cimetière. En fait, pendant cette soirée-là, les gens vont être appelés à se promener d'une station à l'autre. Ils vont en avoir trois. Et ils vont se faire raconter des histoires lugubres, des contes pour leur faire peur. Dans son idée étant de rappeler un peu les moments d'enfance ou de jeunesse où les gens vivaient leur première frousse par le biais des livres, des histoires qu'ils découvraient dans les livres. Donc, mais là, cette fois, ça va être en plein air avec des comédiens et puis des guides qui vont les amener finalement à vivre ces sensations d'angoisse autour de feux de camp.
Donc, est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est le thème généralisé cette année? La peur, tout ça?
L'édition est une édition noire. Donc, la thématique, c'est la littérature noire, le polar.
D'accord.
Beaucoup le polar, la littérature policière, le suspense, mais aussi l'édition noire dans le sens peut-être du côté plus sombre de l'âme humaine.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Donc, il y a de ça. Il y a le suspense et la peur. Il y a la tragédie policière. Et puis, il y a aussi du côté peut-être de la noirceur de l'âme humaine. On a, entre autres, un très beau spectacle « Plus haut que les flammes » qui, lui, va avoir lieu le 1er octobre.
Okay.
Dans ce spectacle-là, il y a Louise Dupré qui lit son superbe texte que vous connaissez peut-être.
Bien sûr, elle est venue ici à l'émission, Louise.
Ah, oui, elle vous en a parlé. Donc, elle le lit. Elle lit super bien. Moi, je l'ai entendu à Montréal, vraiment dans toute... Elle a beaucoup, une très, très grande sensibilité. Elle le lit face à Nicolas Jobin, qui a composé une suite concertante pour l'occasion et qui l'accompagne là-dedans. Et il va y avoir aussi des musiciens, un mini-concert, si vous voulez. Donc, plusieurs musiciens qui vont accompagner Louise. Il y a aussi un chœur de voix préenregistré. Et il y a des... j'allais dire, mais là, ça ne se prête pas, peut-être pas, mais il va y avoir aussi des images, en fait.
Oui.
Donc, des images d'Auschwitz. Parce que, dans le fond, le texte de Louise est basé sur son expérience, sa visite à Auschwitz et Bikernau.
Exactement.
Donc, c'est ça. Et puis, c'est une invitation. Ça va être suivi de Cristal Automatique, qui, dans le fond, lui, c'est de Babic, c'est un artiste français, un auteur, compositeur, interprète, qui, sur des textes de poètes, de grands poètes, Rimbaud, Baudelaire, Miron, aussi, donc, a écrit de la musique sur ces textes-là, et va venir présenter ça encore sous forme de petits concerts, si vous voulez, là, à la salle multi
très
à
bien.
Québec. Et puis, c'est très intense. Cette
interprétation. Et puis, alors, il va y avoir une série à voix basse, écrivain et jazz. Alors, évidemment, l'incontournable Stanley Péan, qui dans le genre écriture sombre s'y entend pas mal, le bougre, si je ne m'abuse. C'est une rencontre avec Gilles Archambault, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est une rencontre qui aura lieu un seul soir, le 29, ce soir d'ouverture, d'ailleurs.
Ouais, d'accord.
Dans le fond, Gilles Archambault et Stanley Péan ont en commun comme passion le jazz.
Oui.
Et les deux écrivent aussi, donc ils ont aussi la littérature. Donc, ils vont venir s'entretenir devant le public de ces deux passions-là et faire des liens, dans le fond, entre la littérature et le jazz.
Et
ils vont être aussi accompagnés de musiciens qui vont jouer du jazz pendant la soirée.
Oui,
donc,
ils ont quelques bons copains, tous les deux, qui font, qui soufflent, qui dans des trompettes, qui dans un saxophone, tout ça.
Oui, piano et autres. Donc, oui, ça va être un moment quand même privilégié. Hein.
Oui.
On va avoir accès à leur passion commune, à leurs échanges.
D'accord.
Et puis, c'est une belle invitation.
Dites-moi, Isabelle Forêt, qu'est-ce que c'est que les apéros 30 arpents de piège?
Oui, en fait, c'est une, en fait, notre série apéro, c'est qu'on va avoir une série d'activités qui va avoir lieu à l'heure de l'apéro. Et 30 arpents de piège, ça se trouve à être, dans le fond, un questionnaire littéraire, un quiz littéraire.
D'accord.
Donc, qui est monté par les libraires, l'organisme que vous connaissez peut-être, qui est un organisme qui regroupe les librairies indépendantes.
Oui.
Donc, eux, ils montent un questionnaire pour mettre les gens au défi, le public au défi. Donc, c'est animé par Joëlle Bonne et elle, qui est très, très, très dynamique, très pleine d'humour. Et elle invite les gens, en fait, c'est un concours, hein, les gens sont en équipe,
oui.
Et les gens sont appelés, dans le fond, à répondre aux questions et puis les meilleurs gagnent.
Ben oui, bien sûr. Et puis, écoutez, là, le temps va nous manquer, mais je voyais qu'il allait y avoir aussi un excellent entretien et lecture musicale entre Christine Brouillet et Martin Michaud aussi.
Oui,
hein.
Il va être animé par Norbert Spener, qui est un spécialiste, c'est ça, de la littérature policière au Québec et conseiller spécial du festival. Donc, comme vous venez de le dire, qui va s'entretenir avec Christine Brouillet et Martin Michaud sur leur univers particulier.
Ben
dans
oui.
le fond, ça va être l'occasion d'en connaître, peut-être de connaître les mystères de l'écriture
policière. Absolument, et noire.
Et, mais ces entretiens-là vont être entrecoupés, encore une fois, de volets artistiques,
musicales.
Oui, exactement, avec des lectures d'extraits de l'œuvre de Christine Brouillet et de Martin Michaud, et accompagné de musique aussi, Frédéric Brunet et Vincent Gagnon. À la magnifique chapelle de l'Amérique francophone. Donc, un lieu extraordinaire pour le son aussi.
Isabelle Forêt, on vous remercie beaucoup. On va vous souhaiter un bon festival, le Québec en toutes lettres. On rappelle, vu que l'émission est diffusée le 29, que ça commence ce soir et jusqu'au 6 octobre, qu'on va être complètement fou à Québec de livres noirs et de livres policiers et de littérature policière.
Oui, ben merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée, un beau festival.
Merci,
salut.
Au revoir.
On passe à des choses à l'émission des livres plein les oreilles, François.
Absolument, comme toujours. C'est vraiment très intéressant. Puis là, je ne vais pas vous lancer de fleurs, mais l'animation...
Non, oubliez ça. Allez, on arrête ça. Moi, ce qui est sûr, c'est que là... mais c'est vrai que ça me tenterait vraiment beaucoup après l'émission de prendre la voiture puis de partir à Québec, par exemple.
Ah ben voilà.
Ça, je suis sûr qu'avec Nirlit sous mon bras, parce qu'il me reste encore une trentaine de pages à finir. Mais pour l'instant, François Côté, bénévole ici, bénévole lecteur depuis quelques années quand même.
Voilà, hein.
Voilà, disons ça quand même. Vous nous présentez aujourd'hui un récit. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Oui, alors c'est un récit, c'est un essai, mais que l'auteur fort habilement nous a présenté comme un récit.
Mm-hmm.
L'auteur s'appelle Frédéric Fernet, c'est un journaliste, un écrivain, un essayiste français.
Mm-hmm.
Il a été critique dramatique, il a été directeur des pages culturelles du Nouvel Observateur, il a eu une émission sur les livres qui s'appelait Le bateau livre sur France 5. Et pendant plusieurs années. Mais ce qui l'intéressait, c'était le personnage de Churchill et Churchill en relation... D'ailleurs, ça s'appelle « Tu seras un raté, mon fils ».
Oui.
Churchill et son père.
Pas évident comme
non, mais
la relation.
Pas évident parce que son père a toujours dénigré, l'a toujours rabaissé et Churchill... est devenu ce qu'il était en dépit ou à cause du père qu'il avait. Et le livre s'appelle justement « Tu seras un raté, mon fils », un clin d'œil au poème de Kipling de 1910,
oui.
« Tu seras un homme, mon fils ».
Eh oui, bien sûr.
Et ce livre est absolument fascinant. Ce n'est pas un livre historique, comme il le dit, c'est un récit que je fais, mais qui nous raconte justement comment Churchill... à travers cette vie remplie qu'il a eue, s'est toujours référé à son père. Pas qu'est-ce que mon père en penserait, mais pour montrer à son père qu'il pouvait réussir.
Tu avais tort quand tu disais de moi.
Absolument.
Parce que c'était ça. Au départ, le père n'a aucune considération pour le rejeton, pour le futur.
Du tout.
Mythe Winston Churchill.
Absolument pas. C'en est déprimant. Enfin, s'il faut croire... ce livre.
Ça se traduit comment? Par quoi, par exemple?
Ça se traduit par... Il l'ignorait. Par l'ignorance, il ne s'en occupait pas. Il lui disait, d'ailleurs, sa femme, enfin, sa mère était de la même eau, il l'ignorait, rien de ce qu'il faisait était bon, tu feras rien de ta vie, voilà. Et tout l'essai est justement de démonter cette mécanique du mépris pour finalement nous montrer comment Churchill
est devenu
Churchill. Et si vous me permettez, je vais lire un petit extrait.
Avec grand plaisir.
Qui est dès le début, qui résume très bien l'essentiel du livre. Alors voilà. Nul ne paraît plus assuré de sa place, plus convaincu de son génie, plus dominateur que cet homme peu ordinaire. On parle de Churchill. Il se croit sorcier. Il règne, on obéit. Pourtant, sous le masque du chef de guerre et du protecteur charismatique de la nation en 1940-1945, et jusque dans le vieillard qui s'adonne à l'aquarelle à la fin de sa vie, subsiste l'ombre du fils indigne, rejeton dévoyé d'une ancienne race, un petit garçon à jamais orphelin du regard de son père et qui se maudit de n'être pas celui qu'on attendait. N'ayant pas su être sage, il ne voudra jamais l'être. On ne s'absout pas de n'avoir pas été aimé comme il faut.
Ouf, oui. Et la table est mise. Hein.
Qui connaît le père de Churchill, ouais. C'était un dévoyé lui-même, c'est un ivrogne, mais c'est un grand parlementaire, mais qui est mort de syphilis. Alors, c'était vraiment...
Est-ce qu'il était fils unique, Churchill?
Non. Là, vous me... Il n'était pas fils unique, non.
Ce serait surprenant.
J'ai un trou.
Ah, OK. Pardon, ça me venait.
Et par contre, question d'histoire, Churchill est né le même jour, soit le 24 janvier, que son père, qui correspond également à la date de la mort de son père, qui était le 24 janvier 1895, et lui est né en 1874, étant mort en 1965. Et voilà, c'est un livre qui se lit, qui est un délice à lire, enfin,
que j'ai trouvé.
Et j'espère qu'il sera également un délice à écouter. Le style est très coulant, pas encombré de grands mots. On apprend beaucoup de choses, entre autres que Churchill, vers les années 1907, s'est promené en train au Canada. Il écrivait, oui, il donnait des conférences en Amérique du Nord et puis il s'est retrouvé, dans un train quelque part au Manitoba. Il écrivait à sa douce. Et voilà. D'ailleurs, la table des matières, je le mentionne, se lit très bien. C'est qui raconte donc chaque époque de la vie de Churchill, qui était un soldat, qui aimait la guerre. Et il a servi dans toutes les... il a servi dans les guerres et il a gagné presque seul. Pour l'Angleterre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un livre absolument remarquable, très court, et qui était facile, agréable à lire, et que j'espère qu'il sera facile et agréable à écouter.
On peut donc imaginer que s'il n'avait pas eu ce père littéralement, ben peut-être pas despotique, mais en tout cas qu'il l'a ignoré, il serait peut-être pas devenu le mythe, parce que lui, on peut le ranger au rang des personnages qu'il est devenu, finalement.
Absolument. Il a essayé de démonter cette mécanique et de voir comment ça s'est fait. Mais dans le fond, que l'on sache comment ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait, ça s'est fait. Et l'écriture qu'il utilise, c'est ce que j'ai aimé, l'écriture qu'il utilise pour nous décrire ce problème est très... ce problème important. L'écriture est très... très abordable.
Oui, je comprends.
Et ce n'est pas un essai psychologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bien écrit. Et voilà, moi, j'ai bien aimé. Je suis content de venir vous en parler.
Est-ce qu'il fait parler Churchill, parfois?
Il interprète les pensées de Churchill, comme l'exemple que j'ai l'extrait que j'ai cité là. Il interprète ce que devait penser cet enfant À tout moment de cet homme, à tout moment de sa vie, il l'interprète, il ne le fait pas parler.
Churchill, qui a déjà déclaré, d'ailleurs, je pense que c'est dans le livre, il avait fait sien un proverbe bantou qui disait « Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors pourquoi reculer ?»
Exactement, oui, absolument. J'avais trouvé, j'aurais pu le citer, mais effectivement. Hein? Ou quand on n'avance pas, on recule.
Mais c'est ça, exactement. Voilà. François Côté, c'est un plaisir de vous entendre lire et vous entendre parler aussi de ces livres que vous aimez. Moralité, vous allez être obligé de revenir. Et je sais que vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez
dire. Oui, absolument.
Bon, alors, c'est un rendez-vous. Merci à vous et bonne fin de journée. Maintenant, c'est devenu une habitude. Si vous écoutez cette émission régulièrement, c'est ce que je souhaite. J'ai l'habitude, en deuxième partie, de vous lire un extrait un peu plus long d'un livre dont il a été question aujourd'hui à l'émission. Alors, évidemment, je voudrais faire la part belle à Nirlit de notre amie Juliana, l'éveillée Trudel, qui est venue un petit peu plus tôt dans la première demi-heure et qui nous a donc révélé ce livre-là, Nirlit, qui se passe quelque part dans le Grand Nord, au Nunavik. Et là, nous sommes à la page 41. Des fois, on se sent bien et protégé parce qu'on est seul et tranquille au bord d'un fjord magnifique, parce qu'on est loin de l'agitation des grandes villes, parce qu'en grimpant en haut de n'importe laquelle des montagnes autour, on peut embrasser tout le village d'un seul regard, faire mentalement le chemin du fond de la baie au détroit, voir le ciel qui s'éclate en mille couleurs quand le soleil commence à descendre derrière les falaises. Une beauté en forme de coup de poing dans le ventre, il y a juste la toundra qui fait ça. Paysage complètement démesuré et bouleversant tout seul au bout du monde, avec si peu de gens pour l'admirer. Des fois, on oublie tout le reste. On est complètement pris par le vent du nord. On écoute les nouvelles de la ville qui ne parle jamais de nous, qui se passe ailleurs, loin, dans un autre pays, et on s'en fout, autant que les gens là-bas se foutent de nous. Quand le brouillard recouvre les maisons et que les avions n'atterrissent plus pendant des jours, le reste du monde n'existe pas, et il n'y a que nous, ici, seuls. Mais des fois aussi, dans une même fréquence. Des fois, tout est lié, d'un bout à l'autre de cet immense pays. Le Nord est inscrit dans notre ADN comme une trace lointaine dans le sang, dans notre sang où coule aussi celui des premiers peuples, pour la plupart de nous autres, les Blancs. Souvenez-vous de vos arrière-arrière-arrière-grand-mères, jeunes gens. Nous vivons dispersés sur cet énorme continent, dans des villes et des villages qui portent de jolis noms à faire rêver les Européens. De jolis noms qu'on s'empresse de traduire parce que nous sommes si fiers de savoir que Québec veut dire là où le fleuve se rétrécit en algonquin, que Canada signifie village en iroquois, ou que Tadoussac vient de l'Innu et se traduit en français par mamelle. Nous avons de jolis mots dans le dictionnaire comme toboggan, kayak et caribou. Il fut une époque où des hommes issus de générations de paysans de père en fils entendaient l'appel de la forêt et couraient y rejoindre les sauvages. Il fut un temps où nous étions intimement liés, mais nous avons la mémoire courte. Hélas. Voilà, c'est un extrait de Nirlit de Madame Juliana l'éveillée Trudel que nous avons reçu un peu plus tôt à l'émission. Si vous l'avez raté, je vous invite évidemment à réécouter l'émission, soit en reprise sur nos ondes, soit encore à aller peut-être vous brancher sur notre site web pour, et là, vous cliquez sur Canal M, vous cliquez sur Des livres plein les oreilles, et vous allez réentendre toutes les émissions qui ont été produites dans le cadre de ce beau programme qui est consacré, rappelons-le, aux livres audio adaptés. Alors, je suis entourée de livres une fois de plus aujourd'hui. Quoi d'autre? C'est une émission littéraire. La bande-annonce pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Gérald Cousineau a toujours le cœur au Portugal. Lui qui nous a présenté il y a quelques semaines le petit dernier de Yann Martel. Eh bien, il nous présente, il poursuit sur sa lancée et nous propose « Train de nuit pour Lisbonne », un livre de Pascal Mercier. Également, la semaine prochaine, Jacques Tremblay a lu pour vous « Le festin au crépuscule », un livre de Marie-Claire Blais. Et honnêtement, c'est moi qui lui ai mis la chose entre les mains et je ne sais pas s'il me hait ou s'il m'adore. Écoutez, en tout et pour tout, dans ce livre de Marie-Claire Blais, 5 points. Pas un de plus, pas un de moins. Alors, quand je vous dis que ça prenait un lecteur exceptionnel pour lire la chose, eh bien, c'est tombé sur Jacques Tremblay qui vient nous parler de Le Festin au crépuscule de Marie-Claire Blais. Et nous recevrons aussi Robert Lalonde pour son petit dernier qui s'appelle Le Petit Voleur. Je suis en train en ce moment, j'ai le livre entre les mains, je vous lis quelques mots qui sont issus de la quatrième de couverture. Novembre 1898, nous sommes à la gare de Melikovo. Anton Tchekhov prend le train, il se dirige vers l'ouest, il traverse la Russie, la Pologne, l'Allemagne. Il s'arrête d'abord à Paris et puis à Nice, où le climat de la Côte d'Azur saura peut-être apaiser l'incendie qui lui brûle les poumons. Et au même moment, le petit Yegor quitte la steppe où il a grandi pour aller retrouver le maître à Melikovo. Celui-ci a répondu à la lettre qu'il lui avait écrite en y joignant un compte de son cru. Le maître a trouvé le compte point trop mauvais et a prodigué quelques conseils à l'apprenti écrivain, assorti d'une réflexion sur la solitude de celui qui consacre sa vie à l'écriture. Alors le gamin y a vu une invitation à venir vivre à ses côtés. Alors c'est toute cette histoire que nous raconte Robert Lalonde dans Le Petit Voleur et il viendra nous en parler de ce livre-là que je vais à mon tour dévorer cette semaine. Que je suis contente, il me reste à peu près 5 minutes pour conclure cette émission et vous proposer quelques livres, quelques titres en rafale qui font partie des nouveautés telles qu'on vous les propose au SQLA. Antarctique Solo, la fantastique aventure de Frédéric Dion, c'est une narration de Brian Perrault. Oui, oui, le Brian Perrault. Et ce type, Frédéric Dion, il a traversé des centaines d'épreuves. Et là, encore une fois, on nous ramène dans le Grand Nord, on nous ramène dans l'Antarctique, alors qu'il a traversé l'Antarctique en solitaire. Hein? Dans le Sud, effectivement, c'est vrai. Mais enfin bon, mais c'est fou comme le Grand Sud et le Grand Nord se rejoignent. Heureusement qu'il y a François qui me fait « C'est dans le Sud, c'est dans le Sud !» Frédéric Dion est victime d'une mauvaise bourrasque. Il perd son traîneau, commence un combat contre le vent, la poudrerie naissante et le froid mordant afin de se retrouver au plus vite son matériel de survie. D'expérience, Frédéric sait qu'il ne lui reste qu'une vingtaine de minutes, car passé ce seuil, son traîneau sera recouvert de neige et impossible à repérer. Alors ce sont précisément ces 20 minutes-là qui sont racontées dans ce livre-là, Antarctique Solo, la fantastique aventure de Frédéric Dion, de Brian Perrault. Carthage de Joyce Carol Oates. Tout semble aller comme il se doit dans la petite ville de Carthage en ce début de juillet 2005, si ce n'est que Juliette Mayfield, la ravissante fille de l'ancien maire, a, pour des raisons peu claires, rompu ses fiançailles avec le caporal Brett Kincaid. Brett, ça me fait penser à Autant emporte le vent, hein. Il me semblait que c'était Brett, non? Héros de retour de la guerre d'Irak. Un héros très entamé dans sa chair et dans sa tête, dont pourtant Cressida, la jeune sœur rebelle de Juliette, est secrètement amoureuse. Or ce soir-là, Cressida disparaît, ne laissant en fait de traces que quelques gouttes de son sang dans la Jeep de qui? Dans la Jeep de Brett, qui devient alors le suspect numéro un, et contre toute attente, avoue le meurtre. On nous dit, je vous préviens, que ce roman de Joyce Carol Oates est absolument puissant et captivant. Je vous l'ai un petit peu présenté avec un ton narquois, c'était complètement ridicule de ma part. C'est parce que la façon dont parfois les résumés sont écrits, avouez de vous à moi que ça aurait pu être un roman harlequin. Non, non, on parle bien d'un livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Carthage. Voilà une bio peut-être que vous attendiez depuis longtemps parce qu'on en a parlé et on en parle encore. Ça fait couler beaucoup d'encre, cette biographie de Claude Jutras. celle qui est signée Yves Levert, qui est parue aux éditions du Boréal, qui nous propose notamment une plongée dans l'univers mental de Claude Jutras, mais aussi dans l'histoire du Québec. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est bien au-delà, nous dit un journaliste du Devoir, pardon, j'ai oublié de noter son nom, c'est donc bien au-delà de ces quelques pages qui évoquent de potentielles relations sexuelles qu'il aurait eues avec de jeunes garçons. Vous savez que c'est la raison pour laquelle on a parlé beaucoup de cette bio et tout ce qui en a découlé que je ne vous rappellerai pas. Donc Claude Jutras, la biographie d'Yves Levert, c'est également disponible en audio adapté. Avez-vous déjà lu du Philippe Kerr? Oui, François dit oui, moi aussi. En fait, j'ai lu ça, cette trilogie et puis quelques autres. Mais là, on nous parle de la Dame de Zagreb et ça doit être très, très bon aussi. Écoutez ça, nous sommes en été 43. Il y a des endroits pires que Zurich et Bernie Gunther est bien placé pour le savoir. Quand Joseph Goebbels, ministre en charge de la propagande, lui demande de retrouver l'éblouissante Dahlia Dressner, étoile montante du cinéma allemand qui se cache, d'après la rumeur, à Zurich, il n'a d'autre choix que d'accepter. Mais très vite, cette mission en apparence aussi aguichante que l'objet de la recherche prend un tour bien plus sinistre. Car le père de Dahlia Dressner est en fait un croate antisémite de la première heure, sadique notoire qui dirige un tristement célèbre camp de concentration de la région. Alors voilà, la table est mise pour ce nouveau livre de Philippe Kerr, La Dame de Zagreb. Et puis, amoureux de Michel Tremblay, le petit dernier de cette série, La Diaspora des Rosiers, le petit dernier qui est La Traversée du Malheur, est également maintenant disponible, ainsi que les 8 premiers, donc La Diaspora des Rosiers, c'est complet. Voilà. C'est fini pour Michel Tremblay et c'est fini également pour nous aujourd'hui. C'était Clotilde Desailles qui remercie tous ses invités, qui vous remercie, vous, d'être là fidèlement à chaque semaine. Bonne lecture, bonne semaine, profitez-en bien. Merci François, merci Juliana, merci Nicole Trudeau, merci Madame Forêt, merci Jean-Sébastien Laliberté. Salut, merci Anne-Laure.